C'est vraiment l'idée de les aider à grandir en sécurité, en fait. Avoir du contact avec eux, être câlin, je pense que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. On peut toujours être en difficulté, c'est des choses qui se réparent, qui s'ajustent. Faut pas trop se sentir anxieux, faut se faire confiance.
Être père aujourd'hui, à l'heure de la crise sanitaire. Le réseau de périnatalité Auréane donne la parole au papa en période post-natale. Devenir père est une étape particulière, chargée d'intenses émotions positives, mais parfois de doutes, voire de craintes. Dans une société en pleine évolution, la place des pères change, son rôle aussi. Le père est ainsi souhaité plus présent auprès de son bébé, dans un partage des tâches avec la mère, comme en atteste l'allongement récent à 28 jours du congé paternité. Mais qu'en est-il réellement ? Et est-ce que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact sur le devenir père? 20 papas habitant dans les Hauts-de-France ont accepté de partager avec nous leur vécu et la réalité de leur expérience.
Je suis aujourd'hui à Lille avec Jean-Luc, qui est le papa de deux petites filles, Vanda et Swan. Swan qui est née en décembre 2020. Est-ce que vous pouvez nous parler de la grossesse de votre partenaire ?
Alors, c'était assez différent d'avec la première, puisque on était dans une situation de confinement avec le Covid. Et dès le début de la grossesse, finalement, alors on a été malade. Déjà, on a eu tous les deux le Covid, notre première aussi. Et on était confinés, donc ce qui est un peu particulier puisque c'est aussi un moment où on prend peut-être un peu plus le temps de flâner, de sortir, de se poser à l'extérieur. Et là, on était plutôt enfermés avec déjà une première qui avait autour de 2 ans et donc qui avait un peu envie de bouger, un peu envie de sortir, qui était malade aussi, donc qui a eu le Covid aussi, donc qui était dans un drôle d'état. Bon, il n'y a rien eu de... On n'a pas eu de forme grave, mais c'était un contexte, sans dire qu'il était oppressant, on avait le sentiment de passer un petit peu à côté de quelque chose.
Et est-ce que vous avez eu des angoisses particulières ou un stress particulier par rapport au bébé ?
On s'est posé la question, mais je ne dirais pas qu'on était stressé par rapport à ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas de recul sur les conséquences fœtales liées au Covid, mais c'est vrai qu'on n'était pas particulièrement inquiet par rapport à ça.
Donc vous étiez en confinement ici chez vous, vous aviez des contacts quand même avec des professionnels ou de la famille où vous avez été entouré ?
On a de la famille qui est vraiment autour de nous. Pendant le confinement, on ne les voyait pas. On avait des contacts un peu comme tout le monde en utilisant les visios, le téléphone. Et après, pour ce qui est du suivi médical avec la sage-femme pendant la grossesse, c'était comme d'habitude, excepté le port du masque.
Donc vous êtes déplacé avec votre épouse à toutes les visites médicales, à tout l'accompagnement. Et est-ce que vous avez été, comme il y avait le Covid, est-ce que vous vous êtes senti accompagné émotionnellement par les professionnels ?
Oui. Pas forcément d'ailleurs par rapport précisément au Covid, mais oui, accompagné par les professionnels, d'autant qu'on a vu une première expérience avec la première grossesse, le premier accouchement qui n'avait pas été évident. On avait quand même eu peur et c'était nécessaire de revenir dessus pendant la seconde grossesse pour évoquer un peu notre appréhension. Et on a rencontré des professionnels extrêmement à l'écoute qui ont accepté de tout reprendre. On a fait la rencontre aussi d'une sage-femme avec qui ça s'est extrêmement bien passé, avec qui on a été très bien accompagnés, et où en plus, moi j'ai eu le sentiment, peut-être un peu pour la première fois, vraiment d'avoir une place dans le processus d'accompagnement sanitaire autour de la grossesse en fait.
Est-ce que vous avez eu des symptômes particuliers pendant cette période, des troubles du sommeil, de l'anxiété ? Est-ce que vous avez pris du poids ?
Pas vraiment. Les symptômes qu'on a eus, c'était typiquement l'anosmie, beaucoup de maux de tête quand même, une grosse fatigue assez longue qui a duré quand même plusieurs mois. Peut-être des petits problèmes de mémoire, des aspects un peu cognitifs, pas d'anxiété majeure.
Donc vous avez pu assister aux échographies. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la première échographie ?
Alors, quand même, peut-être du soulagement de voir que tout allait bien. Je ne sais pas si ça le fait à chaque enfant, mais en tout cas, c'est vrai que pour la première, c'était le cas aussi. Et là aussi, du soulagement. Alors, je pense qu'il devait quand même y avoir dans ma tête l'idée que peut-être le Covid aurait pu provoquer quelque chose d'anormal. Mais oui, du soulagement. Et puis, bah, quelque chose de très agréable, très heureux, en fait, de voir, d'objectiver ce futur bébé qu'on attendait. Ouais.
Est-ce que c'était important pour vous d'être présent à l'évolution et aux échographies, au suivi médical ?
C'était important pour moi, j'avais envie. C'était assez naturel et j'avais l'occasion de le faire, en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue professionnel, je n'ai pas eu à faire beaucoup de gymnastique pour que ça soit possible. Donc, c'était assez simple et ouais, j'étais très content de le faire. Ouais. J'avais en tête, en fait, que ce sont des moments exceptionnels, assez rares et je n'avais pas envie de passer à côté. Ouais.
Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles à vivre ou plus agréables à vivre pendant la grossesse ?
Le moment où on a eu le Covid, c'était long. On était vraiment fatigués. On ne pouvait pas prendre l'air. C'était difficile. On tournait un peu en rond et on était vraiment épuisés. Puis on avait mal à la tête. C'est vrai que ça, c'était pénible. La fin de grossesse n'est jamais non plus très simple. Ma compagne était fatiguée, douloureuse. Forcément, on se posait un petit peu la question de à quel moment ça allait arriver, comment on allait régler les choses avec la première, comment ça allait se passer, si ça dépend du moment, en fait. Et puis, bah, toujours un peu cette appréhension que les choses se passent avec difficulté quand même au moment de l'accouchement.
Est-ce que vous avez participé à la préparation à l'accouchement ? Est-ce que vous avez suivi les cours d'accouchement ? Est-ce que vous avez écouter des podcasts, lu des bouquins, visionner des vidéos, des choses comme ça.
Alors, on a rencontré une sage-femme, comme je vous le disais, qui nous a... Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment une place qui était vraiment d'un très bon contact, que j'ai beaucoup apprécié, et qui, en l'occurrence, proposait de travailler sur le procédé d'accouchement sans péridurale. Pour différentes raisons, en fait, ma compagne se posait la question de l'intérêt de ce type d'accouchement. Et donc, nous a conseillé quelques lectures. Donc, effectivement, ma compagne a lu un livre sur la question de la douleur autour de l'accouchement, qu'elle m'a proposé de lire et que j'ai lu.
Et pour quelles raisons vous n'aviez pas fait de péridurale ?
Il y en a quand même eu une. C'était parce que lors du premier accouchement, en fait, notre fille est née par césarienne. En situation d'urgence, hein. C'était un code rouge, donc il y avait une bradycardie importante. On a eu peur, enfin, j'ai vraiment jamais eu aussi peur. Ça avait été un déclenchement, elle est née vraiment après terme, il y a eu un déclenchement, ça a été très long, très douloureux. Je pense que ma compagne avait en tête aussi que peut-être il fallait qu'elle appréhende un peu différemment la douleur, que peut-être si ça avait traîné un petit peu, si elle n'était pas née avant terme ou à terme, c'était peut-être en lien avec ça. Et donc appréhender la douleur un peu différemment, c'était peut-être aussi peut-être comme ouvrir une porte, en fait, qui permettrait d'être plus tranquille au moment de l'accouchement et qui peut-être éventuellement éviterait ce type de situation. Donc c'était une option qu'elle a trouvé intéressante et puis moi je l'accompagnais là-dedans sans fermer la porte à la possibilité d'une péridurale, hein. D'ailleurs pendant l'accouchement il y a eu une péridurale au bout d'un moment parce que le travail était quand même long, qui a été très fatigué et puis ça devenait quand même douloureux et il n'y a pas eu de résistance plus que ça, hein. Puis on a été assez accompagnés au moment de l'accouchement dans le projet d'accouchement sans péridurale et puis avec une compréhension de l'équipe, hein, qui savait qu'il pouvait nous le proposer à tout moment et que ma compagne a accepté sans avoir l'impression non plus d'être en échec par rapport à ça.
Donc vous étiez présent, vous avez pu assister à l'accouchement.
Oui.
Comment vous avez participé à cet accouchement ?
Et bien, pendant tous les cours de préparation, on apprend des petites techniques pour soulager notre compagne qui travaille depuis un moment. Donc, c'est être présent, être assez disponible pour répondre aux différentes demandes, pour essayer de trouver des techniques un peu antalgiques, aider à la mettre dans certaines positions, solliciter l'équipe quand il y a besoin, être présent. Alors, c'était pas évident parce qu'en fait, finalement, avec le Covid, je pouvais pas être là tout de suite. J'ai pu intervenir uniquement quand elle rentrait en salle d'accouchement. Sauf que la période avant d'entrer en salle d'accouchement était quand même assez longue. Donc, elle est arrivée aux urgences et moi, j'ai pas pu entrer avec elle. Donc, elle était seule quand même un long moment. Et j'ai pu entrer dans la soirée, en fait.
Est-ce que vous avez eu l'impression que vous étiez, vous, en tant que papa, bien pris en charge par les professionnels ?
Plutôt, oui. Avant, tout le travail avant l'accouchement, oui. En maternité, c'est un peu différent. Les choses vont beaucoup plus vite, je trouve. Peut-être qu'on est un peu moins considéré. En même temps, bon, c'est vrai qu'il y a la maman et le bébé, donc on est un petit peu à côté, plutôt en train d'être au second plan à ce niveau-là. Après, j'avais pas d'attente particulière non plus, donc je n'ai pas eu le sentiment d'être mis de côté, de ne pas être considéré ou mal considéré. Non, ça s'est bien passé.
Est-ce que vous avez pu avoir un contact peau à peau avec votre petite fille ?
Oui.
Immédiatement ?
Pas immédiatement, parce que c'est sa maman qui l'a eu. Autant pour la première, après la césarienne, ça n'avait pas été possible. Donc, c'est moi qui l'avais eu pendant plusieurs heures en peau à peau. Et là, donc, je l'ai eu au bout de, je ne sais plus, 30, 40, une heure. Mais d'abord, c'est sa maman qui l'a eu en peau à peau assez longtemps. Et je pense qu'il y avait comme comme elle n'avait pas pu non plus avoir cette possibilité-là lors de l'accouchement de la première, c'était important. Puis c'était important pour moi aussi qu'elle vive ça. Donc, je ne sais plus au bout de combien de temps, mais ça arrivait en salle de naissance, quoi.
Donc, on était en période de confinement au mois de décembre.
Oui.
Comment ça s'est passé à la maternité ? Comment vous avez vécu le séjour à la maternité ?
Alors, le séjour à la maternité s'est très bien passé. Moi, j'étais malade quand même au moment de l'accouchement, donc j'ai un souvenir de quelque chose d'assez physiquement difficile, un peu paradoxal, parce que j'étais pas bien, en fait. J'étais pas trac, en fait. Mais ça s'est super bien passé. On n'a pas eu de visite. Moi, ça m'aurait pas déplu d'avoir un peu de visite lors de la première du premier accouchement. On n'en avait pas eu tant que ça parce qu'on avait limité. Ça s'était bien passé, on avait bien régulé les choses. Si on avait eu un peu de visite, ça m'aurait pas déplu. Mais après, comme on est sorti relativement rapidement, comme c'était le deuxième, tout se passait bien finalement. J'ai pas eu le sentiment d'un manque. C'était assez calme. J'ai pu sortir, aller acheter quelque chose à manger pour ma compagne, un peu plus sympa que la nourriture de l'hôpital. On a eu quand même un peu de latitude comme ça. Moi, je pouvais quand même faire un peu d'aller-retour. Donc ça, c'était possible. Ce qui était dommage, par contre, c'est d'attendre de rentrer à la maison pour que sa grande sœur voie sa petite sœur. Ça, mais bon, après, ça s'est fait assez rapidement et ça s'est fait tranquillement quand même à la maison. Donc pas trop déçu, pas vraiment déçu finalement de ce dispositif. Si ça avait été autrement, si on avait pu avoir des visites, je pense que ça se serait bien passé. Mais là, c'était pas tant un problème pour moi, excepté le contact avec sa grande sœur.
Donc, vous êtes rentré à la maison. Et donc, la grande sœur a pu voir sa petite sœur. Comment ça s'est passé, ce retour à la maison ?
Bon, ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'était marrant parce que sa grande sœur, j'ai trouvé qu'elle avait complètement changé, vraiment quasiment de personnalité à la naissance de la deuxième. Donc on avait une petite fille qui... On avait une nouvelle petite fille et puis on avait une grande qui était en pleine mutation là, à ce moment-là. Et ça s'est très bien passé. C'était un moment super chouette, hein. Sa grande sœur était assez attentive, a pu la prendre dans les bras. C'était vraiment très très mignon, très très chouette, sans aucune difficulté. Ce qui m'a un peu surpris, c'est vrai que j'avais oublié, c'est le rythme la première semaine. on n'arrête pas, quoi. Entre les couches, le réveil, la tétée, etc. C'est un rythme assez infernal. Et puis, on ne peut pas se reposer de la même manière quand on en a quand c'est le deuxième. Puisqu'on ne dort pas en même temps, puisqu'il y a la première à gérer. Mais ça s'est globalement super bien passé.
Est-ce que vous avez trouvé facilement votre place de papa ?
Ouais, c'est vraiment facilement. J'ai pas eu le sentiment à aucun moment d'être de côté. C'était important aussi pour moi, surtout que mes enfants tissent une relation de bonne qualité avec leur mère. Donc, j'ai trouvé ma place et sans difficulté. J'étais content de voir aussi qu'il y avait des moments privilégiés avec leur maman. Ça, c'est pour moi, c'était important. Ouais.
Alors vous disiez, vous ne vous souveniez pas que c'était aussi intense pendant la première semaine. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à l'alimentation, aux pleurs, au manque de sommeil, à la fatigue ?
Moi, j'ai eu la chance de prendre beaucoup de semaines de congé après l'accouchement à chaque fois. Donc la question de la fatigue, elle était présente, mais finalement, comme ça n'avait pas vraiment de conséquences sur mon quotidien, c'était pas très grave pour moi d'être fatigué, donc c'était pas un souci. Les pleurs, c'est toujours un peu difficile quand ça dure. Après, je n'ai pas le souvenir de quelque chose de trop compliqué avec la deuxième. Donc non, c'est effectivement l'association pleurs-fatigue le soir quand tout le monde dort et qu'on reste et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut être un peu long, un peu irritant, mais rien de catastrophique.
Donc vous avez participé activement au change,
Ouais.
à l'alimentation. Mmh. Est-ce que votre partenaire allaitait ?
Oui.
Comment vous avez...
Elle allaite encore, d'ailleurs.
Et comment vous vivez ça, l'allaitement ?
Très bien, très pratique. Très pratique, c'est un moment chouette. C'est marrant parce que ça modifie complètement, enfin en tout cas ça implique une organisation entre nous. Ma compagne, par exemple, la nuit, dit que c'est quand même mieux si c'est moi qui me lève quand il faut se lever la nuit pour les filles, notamment pour la deuxième, parce que si elle la voit, elle va vouloir manger. Donc ça, c'est assez pratique pour elle, parce que du coup, elle se lève pas la nuit et c'est moi qui me lève. Mais non, c'est très bien. Enfin, ça pose pas de soucis, j'ai pas le sentiment d'être à côté. J'étais content de donner les premiers biberons quand même. Non, et puis comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des choses qui me paraissent importantes pour que leur relation s'établisse bien. Et je vois que ça fait plaisir à ma compagne.
Alors vous disiez, vous aviez pris plusieurs semaines de congé paternité. C'est donc vous-même, vous avez bénéficié d'un... ou c'est votre employeur, comment ça s'est passé ?
Ah non, c'est des congés, pas paternité, c'est des congés, des congés annuels en fait. Quand j'ai commencé à bosser là où je travaille, je prenais pas forcément mes congés toute l'année, et puis on a un compte épargne-temps, donc j'ai cumulé des jours sur ce compte-là, ce qui me permettait de poser plusieurs semaines d'affilée après l'accouchement. Et puis j'ai eu une collègue très compréhensive qui a accepté... que je fasse ça à la naissance, donc non, vraiment, c'est chouette.
Donc la nouvelle loi n'était pas encore passée ?
Non, c'était en cours.
Et qu'est-ce que vous pensez de cet rallongement des congés paternité ?
Ah bah c'est indispensable, je pense que on est en retard. On est en retard parce que avoir la disponibilité dans les premières semaines de vie, ça me paraît... important aussi pour se tranquilliser en tant que jeune parent, aussi pour apporter de la tranquillité aux enfants dans leur premier temps de vie, pour soutenir notre compagne. C'est rare quand même dans une vie finalement d'avoir des enfants et pouvoir avoir le temps de profiter de ce moment-là. Moi, ça, en tout cas d'avoir la possibilité de le faire, ça me paraît important. Je peux entendre que certains ne se sentent pas d'être dans cette ambiance-là, mais au moins avoir la possibilité de le faire, je pense que c'est vraiment important. Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous faites mieux que votre partenaire avec la petite ?
Non, je ne crois pas.
Par rapport aux pleurs, par rapport à l'alimentation, est-ce qu'il y a des techniques ou qu'elle maîtrise mieux que vous ?
Non, autant avec la première, j'aurais peut-être eu quelques idées à ce niveau-là. Avec la deuxième, non.
Et les idées que vous aviez, vous ne les avez pas mis en,
La relation s'est établie très différemment, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la première, il y a quand même un lien un peu différent. Je pense que, comme elle est née par césarienne, sa maman, elle était quand même très fatiguée, un peu moins disponible, un peu moins tranquille aussi, un peu plus en difficulté à la naissance. Du coup, j'étais très, très actif. Hein. Elle pouvait pas trop bouger, donc c'est moi qui l'ai eu très longtemps en peau à peau. C'est moi qui ai pu lui donner son premier bain, enfin des petites choses comme ça. Et c'est moi qui me levais beaucoup parce que les premières semaines, c'était quand même douloureux. Donc j'ai eu le sentiment quand même d'avoir plus de facilité, par exemple, à la calmer pour l'endormir. Et c'est quelque chose qui reste encore un petit peu. C'est vrai qu'il y a un rituel qui s'est établi entre nous. Je pense que ma compagne était... probablement un peu plus en difficulté avec la première qu'avec la deuxième, ouais, à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, c'est des choses discrètes, hein. C'est pas des choses majeures, mais pour la deuxième, je vois pas vraiment de différence.
Alors, comment vous vous répartissez entre parents les responsabilités familiales et professionnelles ?
De façon assez égalitaire, je pense quand même. C'est-à-dire que, par exemple, les repas, les conduites, le coucher, c'est réparti entre elle et moi de façon assez équitable. Même s'il y a des choses que moi je fais plus ou qu'elle fait plus, par exemple, le matin, quand Swan se lève, c'est moi qui me lève, qui la prépare, et puis après, c'est elle qui lui donne à manger puisqu'elle prend encore une tétée. Donc, c'est des choses un peu irréductibles, en fait. Moi, je ne donne pas le sein. Mais globalement, je dirais que c'est assez, assez équitable. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être père aujourd'hui ?
Moi, je vois vraiment la paternité, en tout cas. Je vois mon rôle de père comme... Mais c'est pour ça aussi que je suis content d'avoir eu des enfants assez tard. C'est que je suis un peu plus tranquille quand même. C'est vraiment l'idée de les accompagner, les aider à grandir en sécurité, en fait. Qu'ils ressentent une sécurité intérieure pour faire leurs expériences sans trop d'anxiété, oser découvrir des choses. C'est vraiment cette question-là. Autant peut-être qu'il y a 10 ans, la question, par exemple, de la performance aurait été peut-être plus présente dans ma tête. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Ce qui est important pour moi, je me faisais la réflexion d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment de leur proposer un environnement qui leur permet d'avoir une sécurité affective. C'est ça qui me paraît le plus important. Et puis qu'ils aient plein de moments agréables, en fait. Avoir du contact avec eux, être câlin, je pense que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. J'ai envie aussi qu'ils soient généreux, qu'ils soient accueillants avec les autres. Que, voilà, c'est ça, c'est transmettre un peu ce genre de choses, je dirais.
Est-ce que vous pensez que vous êtes très différent du papa que vous avez eu, vous-même ?
Pas tant que ça, finalement. Certainement quand même, et c'est pour ça aussi que je me pose la question de l'âge auquel j'ai eu mes enfants, parce que mon père a eu des enfants très jeunes, en fait. Moi, il m'a eu très jeune, et mon grand frère aussi. Et j'aurais jamais imaginé avoir des enfants à l'âge qu'il a eu. Et donc, je pense qu'il n'était pas dans les mêmes problématiques, dans les mêmes stress, etc. Moi, en ayant eu des enfants tard, je les ai eus dans un contexte global de sérénité quand même, et c'est ce qui fait peut-être un peu la différence. Mais finalement, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence, à part peut-être le recul que j'ai sur moi, que lui peut-être ne pouvait pas avoir étant jeune majeur.
Avec le recul, avec deux enfants maintenant, quel conseil vous pourriez donner au futur papa ?
S'autoriser à être présent pour leurs enfants, à éviter de tomber un peu dans les stéréotypes, peut-être. S'investir, ça vraiment, ça aide à sentir l'intérêt du lien qu'on développe avec ses enfants, mais c'est s'investir un peu surtout, en fait, sur des choses plus ingrates aussi, parce que c'est par ce biais-là aussi qu'il y a plein d'échanges. C'est essayer de pas être trop dans l'évitement, ça me paraît de pas compter forcément sur les aspects qu'on considère comme étant du registre maternel. Je dirais que c'est le conseil que je donnerais. Et puis envisager que en fait on peut toujours être en difficulté et que c'est des choses qui se réparent, qui s'ajustent, qu'il faut pas trop se sentir anxieux, faut se faire confiance, faut aussi écouter les conseils. Enfin, c'est une aventure à plusieurs quand même en fait. Hein. C'est aussi c'est vrai que j'avais déjà lu des choses. Des auteurs qui parlent du fait qu'un enfant, en fait, appartient pas vraiment à ses parents, mais aussi à tout un groupe, à une société. Et c'est une conception intéressante, hein, parce que finalement, ça veut dire aussi qu'on peut aller piocher à droite, à gauche, des choses que nous, on n'a pas en nous, hein, et qu'on peut utiliser aussi, réutiliser, qu'on grandit avec ça, en fait, en tant que parent, et pas avoir l'impression de tout savoir. Se dire que on a des connaissances qui nous permettent d'élever nos enfants aussi, mais que c'est pas suffisant.
Merci Jean-Luc.
Merci à vous.
Cette série de podcasts a été réalisée par BM Music Prod en collaboration avec Mélissa Ferdouze, chargée de projet au sein de l'association Auréane, et le docteur Patricia Dedang, pédopsychiatre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.